La revue de presse, c'est avec vous. Bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour à tous.
Alors ce matin, dans cette presse du samedi, vous nous dites qu'on vit une époque formidable.
Franchement, est-ce qu'ils ne vous font pas un peu envie, ces nuggets de poulet à la une de Libération?
Faites-nous envie.
Je sais qu'il est encore un peu tôt, mais on les sent bien dorés, bien croustillants. Juste un petit détail, il s'agit de viande artificielle. Ça y est, nous y sommes. Depuis mercredi, les habitants de Singapour peuvent déguster des nuggets de poulet conçus en laboratoire. Un restaurant a reçu l'autorisation. Et c'est une première mondiale, nous dit Libé. Pourquoi Singapour ? Bien notamment parce que cet État minuscule doit importer l'essentiel de son alimentation et en temps de pandémie. Et on s'aperçoit que cette dépendance n'est pas sans risque. Alors la viande artificielle, comment ça marche ? Bien, faute de pâturage, vous prenez des blouses blanches, en l'occurrence une start-up californienne qui cultive des cellules animales et reconstitue la nourriture in vitro, une technique inspirée de la médecine régénérative, les greffes de tissus, explique notamment Libé. Le journal qui ne tranche pas d'ailleurs, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Question éthique, sanitaire évidemment. Bon, déjà, il faudrait pouvoir goûter pour se faire une idée.
Auriez-vous, mon cher Jean-Philippe, quelque chose, disons, de plus traditionnel à nous proposer ?
Je ne vous sens pas convaincu par mon poulet de laboratoire. Alors, pour vous, j'ai deux salles, deux ambiances. D'abord, on a trouvé un resto ouvert. C'est la une du Bien Public qui vous parle du Cap Nord à Dijon. C'est un resto de routiers, exclusivement réservé aux routiers en cette période de pandémie. C'est essentiel pour se laver, pour se reposer. Je vous en parle parce qu'on a plusieurs histoires régulièrement dans la presse quotidienne régionale. Et puis alors, dans un tout autre genre, vous avez un livre de recettes et d'histoires signé Guillaume Gomez. C'est le chef des cuisines de l'Élysée, s'il vous plaît, et il est dans le Figaro ce matin. Avec quelques anecdotes sur ces dîners officiels, cette gastro-diplomatie où le faux pas n'est pas permis. En 2014, par exemple, avec la reine d'Angleterre, venue nous voir à l'occasion du 70e anniversaire du débarquement, Elisabeth II aime le foie gras, mais son fils, le prince Charles, l'a proscrit au nom du bien-être animal. Bref, alerte au protocole. Finalement, et c'est une première, l'Élysée laisse la reine décider elle-même du menu. Ce sera foie gras. Et tant pis pour
et
Charles.
On obéit à maman.
Voilà, vous avez aussi la soupe de truffe créée par Paul Bocuse en 1975. C'était à l'occasion d'un déjeuner offert à l'époque par le président Valéry Giscard d'Estaing, dont les obsèques ont lieu aujourd'hui à Autun, Loir-et-Cher. C'est la une de la Nouvelle République cette fois. Le président reposera aux côtés de sa fille Jacinthe, cérémonie dans la plus stricte intimité.
Et dans la presse de ce samedi, on parle aussi de voitures électriques.
Avec le milliardaire Elon Musk et sa marque californienne Tesla, vedette de Wall Street, nous dit le Figaro. Alors que 2020 s'annonce bien sombre pour les constructeurs automobiles, eh bien le cours de Tesla, lui, s'est envolé. Certes, la production reste modeste, mais elle est rentable et les investissements furent judicieux. Ce n'était pas une bulle, constate le Figaro. Et le journal Le Monde, de son côté, nous emmène en Allemagne, près de Berlin, là où Tesla construit sa future usine européenne. Une gigafactory qui sort de terre à une vitesse stupéfiante, nous dit le journal. Plusieurs centaines d'hectares avec la promesse de 12 000 emplois directs créés. Seulement, les riverains s'inquiètent aussi des conséquences environnementales et sociales. Mediapart affirme qu'Elon Musk n'entend pas se plier au modèle allemand de co-gestion, ni laisser une place aux syndicats. Mediapart qui nous dit que le milliardaire a la réputation d'être un patron autocratique qui supporte mal la contradiction.
Et l'on termine avec, comment dire, un sujet clivant, le chiffre 6.
Oui, vous avez tous compris, hein, ce sera 6 à table maximum au réveillon, sans compter les enfants. On connaît désormais le chiffre clé pour lutter contre le virus, un Noël en petit comité à la une de Sud-Ouest. Mais une jauge qui divise effectivement dans la voie du Nord, où l'on s'aperçoit que ça parlemente ces jours-ci au sein de certaines familles, entre les prudents et les bravaches, ceux qui respectent les consignes, et les autres qui la jouent porte ouverte. Chez Christine par exemple, ils avaient prévu d'être 10 le soir du 24 et 25 le jour de Noël, évidemment c'est beaucoup trop, mais le simple fait de le dire génère des tensions, raconte Christine, notamment avec sa belle-mère, une complotiste qui pense que le virus est une invention. Je vous laisse imaginer l'ambiance. Il y a aussi le cas de conscience de Corinne, 41 ans, et de ses deux sœurs. Avec les conjoints, ils seront 6, mais avec les parents, ça fait déjà trop. Des parents qui vont peut-être devoir choisir où aller. On va enfin savoir quelle fille ils préfèrent, plaisante Corinne. Mais plaisante-t-elle vraiment ? Alors oui, ce matin dans vos journaux, vous lirez l'agacement de quelques-uns, trop de renoncement à nos libertés. Mais finalement, pas de quoi s'affoler, puisqu'en moyenne, nous devrions être 5 à table, nous dit un sondage IFOP dans le Parisien aujourd'hui en France. Qui vous donne d'ailleurs quelques conseils intéressants. Pour le plan de table, notamment, pensez à mettre l'un en face de l'autre des gens qui vivent ensemble toute l'année. Et oui, ça évite une éventuelle propagation. Et c'est moins risqué que face aux grands-parents pour parler et projeter. Bref, Eric, Patricia, c'est officiel. Nous pourrons réveillonner les yeux dans les yeux.
Oh, vous savez, tant qu'on n'est pas très à table. merci Jean-Philippe Ballas et à demain.